Conscience CQFD, Natacha Triou.
Longtemps resté marginal dans la recherche académique, amplement débattue, son existence est désormais avérée. Le rêve lucide. Comment le cerveau crée-t-il cet état de conscience très particulier ? Imaginez, vous êtes endormi, vous rêvez, vous décidez alors de voler, vous vous élevez plus haut dans le ciel à chaque inspiration. Comment plonger sous-marine ? Être capable de maîtriser son rêve alors que l'on dort comme un loir, c'est ce que font les rêveurs lucides. Pour la recherche en neurosciences, ces explorateurs nocturnes ouvrent une nouvelle fenêtre inédite et directe sur le rêve, avec des découvertes qui remettent en cause un certain nombre de dogmes autour du sommeil. À commencer par l'idée reçue selon laquelle le dormeur serait coupé du monde extérieur. Rêve lucide, sous le sommeil, exactement. Isabelle Arnulf, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neurologue et chef du service des pathologies du sommeil de l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris et vous co-dirigez l'équipe Dream Team à l'Institut du Cerveau. Jean-Baptiste Marancy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin psychiatre et somnologue du service des pathologies du sommeil de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Cette émission est en partenariat avec Science et Avenir, notre partenaire adoré et co-animé avec vous, Olivier Lascar. Bonjour.
Bonjour Natacha, bonjour à toutes et à tous.
Rédacteur en chef du pôle numérique de Science et Avenir avec, pour ce prochain numéro de novembre, un dossier sur le rêve. Merci à vous trois d'être là avec nous, merci à vous qui nous écoutez, et n'hésitez pas à nous suivre sur X, ex-Twitter, à nous poser des questions. On publie pour vous tous les jours plein de ressources, plein de liens, c'est sur notre fil @sciencecqfd. Alors quels atouts les rêveurs lucides représentent-ils pour l'étude des rêves ? Comment étudier scientifiquement cette expérience subjective ? Et quels sont les bienfaits des songes pour notre cerveau et notre santé mentale ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais d'abord, rêver, est-ce un état passif ? La question est posée en 1982, c'est notre archive du jour.
Ce fils de la nuit, le sommeil, est frère de la mort. Voilà ce qu'il y avait un siècle disait Lutèce. Longtemps mystérieux, le processus qui fait succéder à l'état de veille un repos apparemment proche de la mort, mais au cours duquel multiples activités cérébrales se déploient, a de tout temps intrigué les hommes. Mais il n'y a guère que depuis une vingtaine d'années qu'on a cessé de considérer le sommeil comme un état passif et qu'on en a découvert l'organisation cyclique, les mécanismes et les activités psychiques originales qui l'accompagnent, les rêves. On est arrivé à localiser les structures nerveuses que dans ces différents stades ils mettent en jeu bien mieux. On en étudie la pathologie qui s'avère dans bien des cas véritable révélatrice de l'état de santé du patient. Dans presque toutes les grandes villes, il existe aujourd'hui un centre d'études du sommeil. À Toulouse, il se situe au CHU de Rangueil, dans le service d'exploration fonctionnelle neurologique que dirige le professeur Louis Arbus.
Le sommeil, pendant longtemps, était considéré comme un négatif de la veille, puis comme un phénomène passif. Et grâce aux travaux de Jouvet, et essentiellement grâce aux enregistrements électroencéphalographiques de sommeil de nuit, on a pu montrer que dans le sommeil, il y avait surtout un phénomène actif. Cela se comprend, parce que dans le sommeil, il y a le rêve. Et le rêve est un phénomène actif.
La pathologie du sommeil dans l'émission La Région au présent sur France 3 Toulouse en 1982. Isabelle Arnulf, le songe, c'est un phénomène actif.
Le cerveau travaille pendant le sommeil, contrairement à ce qu'on pensait. Et il produit des scénarios, des images, des pensées, des émotions. Et il a une autre manière de travailler que pendant l'éveil, mais il travaille et donc accéder au rêve, c'est accéder à la façon de penser du cerveau pendant le sommeil.
Votre réaction, Jean-Baptiste Marancy, à l'écoute de cette archive ?
Bah oui, il est actif, assurément. Trop actif, même, peut-être parfois. Et d'ailleurs, les rêves qui se déroulent dans notre cerveau, on a la nécessité qu'ils ne soient pas mis en action, par exemple. Et si les systèmes de paralysie qui nous permettent qu'on soit paralysé pendant le sommeil paradoxal, par exemple, un stade où se produit le plus de rêves, on les met en action. Donc ils sont très actifs et nécessitent qu'on soit paralysé, en fait, pour pas qu'on les extériorise.
Olivier Lascar, on entendait dans cette archive en 1980, le sommeil fait déjà l'objet d'études approfondies, de nombreuses études. Aujourd'hui, c'est une recherche qui s'accélère. Le nombre d'études sur ce sujet est en train de bondir.
Oui, c'est un des sujets qui est abordé par ce dossier sur les rêves lucides dans le numéro de Science et Avenir qui sort jeudi, là, dans 48 heures. Et on est étonné de voir à quel point, finalement, ce continent en négatif, comme ça a été dit dans l'archive, est absolument, et encore largement méconnu. C'est une forme de terra incognita. Je vous vois faire la moue, Isabelle Arnulf.
Oui et non, c'est-à-dire que jusqu'à ces dernières années, on avait accès au rêve par le récit du dormeur, qui est déjà d'une très grande richesse en lui-même, mais on n'était jamais sûr que c'était juste, que c'était pas reconstruit, ce qu'on sait depuis longtemps, c'est que l'immense majorité des rêves est oubliée et n'est pas mémorisée. Mais depuis une vingtaine d'années, on accède au contenu du rêve en direct à l'aide de deux modèles qu'on a beaucoup développés dans notre unité de recherche. Le premier, c'est le modèle des comportements pendant le sommeil. Vous savez qu'on peut tous un peu parler pendant le sommeil de temps en temps. Donc on a étudié la parole pendant le sommeil, ce que disaient les gens. Et c'est passionnant et ça nous apprend vraiment sur comment on peut faire des conversations entières dans notre sommeil. Et puis, il y a des pathologies, pour le coup, c'est venu par les centres de sommeil, où les personnes ne sont pas complètement paralysées, ou à moitié endormies, à moitié réveillées, le somnambulisme, par exemple, ou les terreurs nocturnes. Et puis, dans la phase de sommeil paradoxal, où normalement, on a vraiment un système qui verrouille les sorties motrices du corps, ce verrou, qui est situé dans le bas du tronc cérébral, peut ne pas fonctionner, ou fonctionner de façon épisodique, en particulier dans des maladies dégénératives comme la maladie de Parkinson. Et du coup, on voit les gens en train de rêver. Alors, c'est là où effectivement, comme disait Jean-Baptiste, on se rend compte à quoi sert le verrou. C'est qu'il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de bagarres, et donc ils peuvent cogner leur femme dans le lit, tomber du lit, mais aussi fumer des cigarettes, donner des discours. Et donc, on voit le rêve en direct en train de se dérouler sous nos yeux et sous nos vidéos, même si le dormeur lui-même ne s'en rappelle pas. Donc ce premier modèle nous a permis de progresser sur 15 ans à peu près, sur les mimiques faciales, sur ce que disent les gens dans leur sommeil, sur les comportements. Et puis on est revenu au rêve lucide, qui est connu quand même depuis les années 50, mais sur lequel on a découvert un modèle de personne extrêmement efficace pour être rêveuse lucide.
Peut-être avant de plonger en profondeur dans ces sujets, peut-être qu'il faut rappeler brièvement, Jean-Baptiste Marancy, hein, quelles sont les différentes phases du sommeil.
Alors, il y a deux grandes phases de sommeil. Le sommeil lent et l'autre étant le sommeil paradoxal. Au cours du sommeil lent, c'est le sommeil qu'on commence à faire au début de la nuit. L'activité cérébrale ralentit, l'activité dans les muscles diminue mais reste quand même présente. Et ensuite va se passer le sommeil paradoxal. Alors d'où vient le paradoxe ? Le sommeil paradoxal est caractérisé par une activité cérébrale qui n'est pas tout à fait celle de l'éveil mais plus rapide qu'en sommeil lent. Une paralysie musculaire totale, à part quelques muscles bien sûr, on respire, le corps continue à battre. Et les yeux bougent au cours de ce stade de sommeil. Et voilà le paradoxe entre la paralysie de la majorité du corps et l'activité cérébrale assez rapide et les yeux qui bougent dans tous les sens.
Ce sommeil paradoxal, on l'a découvert en 1959 et c'est à ce moment-là hein, qu'on a des rêves les plus émotionnels, Isabelle Arnouf, parce que néanmoins on rêve tout au long de la nuit, tout au long de ces différents cycles de sommeil.
Oui, on rêve dès l'endormissement, on a des images en fait hein, qui apparaissent derrière les yeux, ce qu'on appelle les hypnagogies, qu'on choisit au début et ensuite qui s'imposent à nous. Ensuite, quand on passe dans le sommeil lent, on a des contenus qui sont plutôt assez proches des pensées ou j'étais avec des amis, c'est pas très élaboré, il n'y a pas beaucoup d'émotions, il n'y a pas de long scénario quand on recueille le contenu mental du dormeur, alors qu'en phase paradoxale, on a des scénarios qui sont très longs, très immersifs, avec des émotions, des images, des sensations, et un petit corps de rêve qui finalement bouge, s'anime, saute et combat. Et c'est pour ça que pendant longtemps, on a restreint l'activité de rêve à celle du sommeil paradoxal, parce que ça correspond plus à l'idée populaire sur les rêves, ce grand rêve dont on se souvient le matin au réveil, qui correspond généralement à la dernière phase de sommeil paradoxal.
Mais qu'est-ce qui fait justement qu'on se souvienne de nos rêves plus ou moins bien ?
Alors, Il y a des grands rêveurs et des petits rêveurs. Tout le monde rêve autant. Et ça, c'était difficile à prouver. Il a fallu trouver justement des gens qui parlent dans le sommeil mais qui se souviennent jamais de leurs rêves pour le démontrer. Ce qu'a montré Perrine Ruby, c'est que la capacité à se rappeler de ses rêves, elle est dépendante de l'attention portée aux choses en général, y compris pendant l'éveil. Et puis les femmes se rappellent un peu plus des rêves que les hommes, les enfants plus que les adultes. Et quand on prend de l'âge, ben on se rappelle moins de ses rêves.
Olivier Lascar.
Vous avez parlé des différentes façons que vous, scientifiques, vous avez d'enregistrer ce qui se passe pendant le sommeil, enfin quand des gens dorment dans un environnement équipé comme un laboratoire. Mais il y a aussi la pratique du journal de rêve dont on parle dans le dossier là, qui finalement est à la portée de tout le monde et qui peut avoir qui peut être riche d'enseignements pour les scientifiques, mais aussi pour soi-même, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que il y a le souvenir qu'on a du rêve, mais il y a aussi la façon dont on le restitue a posteriori, qui est une façon de le transformer.
Jean-Baptiste Marancy, justement, sur ces différents biais que représente la narration du rêve, en effet, dont parle Olivier Lascar.
Oui, alors le récit de rêve est grévé par plein de biais. Il y a tout d'abord, on se réveille, on a un rêve en tête. Je pense que beaucoup de nos auditeurs ont fait cette expérience. On savait qu'on rêvait le scénario, et puis là, ça s'évapore immédiatement. Ce qu'on appelle un rêve blanc. Donc déjà, on a pu l'oublier. Alors qu'il y a peut-être des choses très intéressantes à rapporter. Ensuite, on doit le mettre en récit. C'est quand même pas évident, hein. Souvent, tout va dans tous les sens, énormément de péripéties, de détails. Donc on va un petit peu rescénariser, voilà, pour que ce soit quelque chose qu'on puisse écrire plus facilement. Et enfin, si on s'intéresse à des choses assez fines, comme la temporalité entre les événements, la dynamique qu'ils peuvent prendre, etc., sujet qui nous a notamment intéressé pour les émotions, ben là, ça devient complètement impossible d'estimer combien de temps on a passé dans tel endroit, combien de temps on a passé dans un état émotionnel positif, négatif. Donc, un enseignement très riche des carnets, mais peut-être ça ne va pas suffire. Il nous faut des modèles plus fins, aller plus loin.
Oui, parce que je découvrais dans ce dossier, justement, Isabelle Arnoulf, l'existence d'une banque de rêves qui contient pas moins de 22 000 récits, hein, qui a été créée par deux chercheurs américains. Ça, c'est une banque de données qui est utilisée à des fins de recherche, mais que nous apprend justement cette immense banque de données de rêves. Extrait de journaux, d'ailleurs.
Les banques de rêves, c'est-à-dire qu'on fait des banques de rêves, nous, ou des collections de rêves, chaque fois qu'on fait une manip, évidemment. Mais là, l'idée de Domoff a été de les mettre en commun, de passer nos série de rêves sur cette base, en disant voilà, ça s'est recueilli chez tous les enfants de 7 à 10 ans dans telle école, ou de façon longitudinale, il y a des gens qui tiennent des carnets de rêves à l'échelle d'une vie, et donc qui en parallèle, et c'est très intéressant, tiennent un carnet de ce qu'ils font dans la vie réelle, pour rechercher les concordances et les discordances. Et la deuxième idée de faire des banques, c'est d'avoir des grands nombres. On dit toujours qu'en science, petits effectifs, grosses bêtises. Et c'est vrai pour les rêves aussi. Et ce qu'on a vu, par exemple, d'intéressant avec les grandes banques de rêves, c'est que donc les femmes rêvent plus que les hommes. Si on compare les rêves des femmes aux rêves des hommes de façon un peu systématisée, avec des échelles, hein, pas des interprétations psychologiques, on se rend compte que les personnages, par exemple, dans les rêves des femmes, sont à égalité homme-femme, en moyenne, et je vous donne des données sur 500 personnes à chaque fois, alors qu'il y a beaucoup plus d'hommes dans les rêves des hommes. L'agressivité est présente dans les deux sexes, mais elle prend une forme plus verbale chez les femmes, plus physique chez les hommes. Donc voilà, on dirait un petit peu que c'est lié au statut de la femme dans la société, mais ces premières expériences qui ont été faites il y a 20 ans ont été vérifiées par les féministes de Berkeley, et elles trouvent exactement la même chose actuellement.
On en arrive à nos rêveurs lucides qui nous permettent un accès plus direct, sans biais, aux rêves. Pourquoi plus précisément la recherche s'intéresse-t-elle à ces explorateurs oniriques ? Restez à l'écoute.
France Culture, la science CQFD, Natacha Trio.
En En direct sur France Culture avec Jean-Baptiste Marancy et Isabelle Arnoulf, nous parlons de rêveurs lucides et des recherches en cours sur ces dormeurs. C'est une émission en partenariat avec Science et Avenir et co-animée avec Olivier Lascar. Nous venons de rappeler que la phase de sommeil paradoxal est caractérisée par une activité visuelle importante, des scénarios de rêve plus longs, que lorsqu'on dort environ 7 heures, on recueille des rêves pendant environ 5 heures. Il y a donc ces rêveurs lucides, Isabelle Arnoulf. Le rêve lucide, c'est quelque chose de différent que de la rêverie éveillée, hein, comme font les surréalistes. Ça, faut faire les distinctions.
Oui, souvent c'est confondu. Il y a une belle exposition sur les surréalistes en ce moment.
Qui fait leur 100 ans.
Quand on peut fermer les yeux et puis laisser place à notre imagination, on sait depuis peu, depuis les travaux de Thomas Andrillon, que ça correspond finalement à une forme de sommeil, mais du sommeil local. La partie antérieure du cerveau est endormie et laisse libre la partie postérieure de s'exprimer. Alors on fait tout ça de temps en temps. Ici, on parle du rêve lucide, on le restreint au sommeil paradoxal lucide. Il y a très rarement de la lucidité dans le sommeil lent. Et donc on est face à des personnes qui sont endormies, paralysées dans la phase paradoxale et qui tout d'un coup se rendent compte qu'elles sont en train de rêver. Je suis sûre que ça vous est tous arrivé au moins une fois, et moi généralement ça me réveille de me rendre compte que je suis en train de rêver, mais ces personnes-là restent endormies et elles peuvent être simplement les spectatrices de leurs rêves et dire « Ah, c'est joli comme rêve, c'est pas mal », et puis elles peuvent en changer des éléments et du coup, bah, s'envoler, comme vous disiez, ou choisir la plus belle fille du monde, ou un très bon Bordeaux. La troisième chose qu'elles peuvent faire, et ça dépend un peu de la performance du rêveur lucide, c'est d'envoyer des signaux à l'extérieur, à l'expérimentateur, des petits froncements de sourcils, ou des mouvements d'yeux très particuliers, ou des reniflements. On utilise tout ce qu'on peut mesurer de l'extérieur pour nous informer qu'elles sont en train de faire un rêve, qu'elles sont en train de rêver, et un rêve lucide.
Et on va voir comment, justement, on communique avec un rêveur lucide, mais comme vous dites, ça nous est tous arrivé au moins une fois. Jean-Baptiste Marancy, ça reste quand même une expérience rare.
Alors, ça dépend comment on considère les choses. Que ça arrive au moins une fois dans la vie, c'est à peu près une personne sur deux. Par contre, les personnes qui vont faire toutes les semaines, on tombe à 2%. Et les gens qui sont assez bons pour venir en laboratoire de sommeil, être lucide, faire des codes, alors là, on est sur du 0,01%.
Olivier Lascar.
Ce qui est fascinant, c'est cette interaction qu'il y a entre la personne qui dort et la personne qui lui parle. Moi, ça m'évoque toujours une planche célèbre de Gaston Lagaffe, où on le voit qui dort sur son bureau, et puis il y a son supérieur, Fantasio, qui vient le voir et qui lui dit des mots, comme ça, jetés à la va-vite. Et il regarde la réaction, il lui dit « travaille », et puis le sourire de Gaston s'effondre. Et par contre, il lui dit « Fantasio », et le sourire s'élargit, et Fantasio comprend que Gaston a un bon fond. Ça veut dire que cette représentation qui vient de la BD, elle est réaliste, finalement. C'est-à-dire qu'on peut rentrer, on peut établir des points de connexion, des ponts de jonction entre la personne endormie et celle qui ne l'est pas.
Oui, dans le sens de la sortie, je suis en train de rêver et je vais informer les gens qui sont dans la chambre d'expérience ou à côté que je suis en train de faire tel rêve. Oui, ça, on y arrive depuis une trentaine d'années. Et ça a permis de résoudre beaucoup de questions qu'on se posait, par exemple sur l'écoulement du temps dans les rêves, en demandant à la personne, quand tu sais que tu es en train de rêver, fais-nous un signal et compte jusqu'à 10 dans ta tête et refais un signal, un froncement ou un mouvement des yeux, et on fait la même chose en éveil et on regarde si 10 secondes en rêve, c'est la même chose que 10 secondes en éveil. Dans la mesure où depuis longtemps, il y a un peu cette croyance que les rêves ont un côté instantané, inventé au réveil, très densifié. Ces premières expériences qui avaient été faites par Erlacher, par exemple, en Suisse, ont montré que la temporalité est relativement respectée en rêve. On marche un peu plus longtemps 10 pas en rêve que 10 pas dans la réalité, mais à peine plus lentement, donc ce n'est pas Inception. Et donc ça, on y arrivait depuis longtemps, ça a été difficile à refaire dans une IRM avec de l'imagerie intracérébrale, mais surtout, ce qu'on a fait nous depuis 3 ans, c'est de rentrer dans la chambre et de poser des questions, comme Fantasio à Lagaffe, et à notre grande surprise, les rêveurs lucides ont répondu, non pas avec un sourire, mais avec un code qu'on avait convenu avant pour dire oui ou non à la question.
Alors c'est fascinant, cette idée que le temps s'écoule de la même façon en rêve que dans la réalité, c'est en effet un des résultats. J'aimerais revenir sur ce que vous venez de dire aussi, Jean-Baptiste Marancy, vous parliez des bons dormeurs lucides. Il y a des méthodes, il y a des techniques justement pour essayer d'augmenter ces capacités-là. Quelles sont ces techniques et puis que valent-elles ?
Alors oui, il y a plusieurs techniques. Une première chose à faire, c'est tenir un journal de rêve. Déjà, ça se rendra noter tous ces rêves tous les matins avec le plus de détails possible. Ensuite, on proposera aux aspirants rêveurs lucides de faire des tests de réalité. Il s'agit de réaliser différentes manœuvres dans la journée pour vérifier qu'on est bien dans la réalité. Par exemple, je suis en train d'en faire une devant vous. Je suis en train de regarder ma main. Elle est à peu près normale. C'est-à-dire que je suis bien réveillé dans le studio. Je ne suis pas en train de rêver que je suis venu à France Culture. Si ça avait été le cas, il y aurait une bizarrerie. Un doigt supplémentaire, la texture de ma peau étrange, elle serait de couleur verte, etc. Ils auraient alors réalisé, tiens, ce n'est pas normal. Je suis en train de faire un rêve. Et ça aurait déclenché la lucidité. Des techniques de lucidité, de thèse de réalité, pardon, il y en a plein, notamment par exemple attraper dans un rêve la page d'un livre, la lire, lever les yeux, reposer les yeux sur la page. Si le texte est le même, vous êtes dans la réalité. Si le texte est différent, vous êtes en train de faire un rêve et donc rêve lucide.
Isabelle Arnoux, il y a cette technique aussi dont l'efficacité serait la mieux validée scientifiquement, c'est celle qu'on appelle la technique MILD. Ça aussi, qu'est-ce que c'est que cet exercice ?
Alors, acquérir, être conscient, c'est être assez proche de l'éveil. Donc, une des idées consiste à essayer d'augmenter un petit peu l'éveil chez le rêveur, soit en faisant un son, soit une petite couleur rouge sur un bandeau. Ça marche encore mieux quand on a entraîné les personnes en éveil, chaque fois qu'elles entendent ce son ou qu'elles ont cette petite lumière rouge, à prêter attention à l'expérience qu'elles sont en train de vivre. Si on la refait pendant le sommeil paradoxal, on peut provoquer carrément un réveil, mais on peut aussi provoquer simplement une attention plus élevée à ce qu'on est en train de vivre et du coup se rendre compte qu'on est en train de rêver.
On voit une étude de 2017 par un chercheur australien selon laquelle 53% des participants qui ont combiné justement tests de réalité et techniques MILD pendant une semaine ont réussi à faire au moins un rêve lucide et certains bien plus, Olivier Lascar.
Oui, alors c'est amusant parce que les paramètres que disait Jean-Baptiste Marancy, est-ce qu'il y a un doigt en trop, est-ce que les caractères de la feuille évoluent d'un instant à l'autre, c'est exactement les paramètres qu'on établit pour l'intelligence artificielle aujourd'hui, pour détecter qu'une image ou pas a été générée par l'intelligence artificielle. Donc c'est troublant de voir comment cette question du virtuel et du réel, c'est quelque chose qui est ancré en nous, quoi, et qui vient de cet univers de l'onirisme. Et Natacha, tu me faisais réagir sur quoi ? Parce que
je suis sûr. Savoir si vous aussi vous vous entraîniez en pleine journée pendant cette émission.
Non, oui,
savoir si vous étiez en train de rêver.
Ce qui est frappant, c'est là aussi le protocole. C'est-à-dire qu'il faut quand même que le rêveur lucide soit une personne qui a cette capacité, mais il y a toute ce dispositif de code avec l'expérimentateur, renifler, cligner des yeux, etc. Enfin, bouger ses yeux un certain nombre de fois. Il faut quand même une aptitude assez particulière pour encapsuler en soi-même ces directives et être capable de les restituer au moment clé.
Oui, il faut souvent s'entraîner. Le code, c'est vraiment effectivement un alphabet qu'on décide avant de dormir et on va leur donner ensuite des missions pendant le sommeil, de nous faire le code, par exemple, quand ils plongent dans une piscine, ou, vous voyez, pour qu'on puisse comparer leur expérience onirique à ce qu'on voit dans le corps de la personne à ce moment-là. Est-ce qu'elle s'arrête de respirer ? Alors, c'est vrai que ça suggère de maîtriser le corps réel alors qu'on est dans un corps onirique. Mais ils y arrivent à peu près. On a longtemps fait les yeux gauche-droite, pose, gauche-droite, qui différencient bien ces mouvements-là des mouvements oculaires rapides, spontanés du sommeil paradoxal, qui sont obliques et de petite amplitude. Mais un de nos rêveurs lucides nous a dit, vous savez, j'étais poursuivi par des gremlins, je me suis rappelé que je devais vous prévenir que j'étais en train de rêver, j'ai eu du mal à lâcher le regard sur mes gremlins pour vous envoyer le code. Et du coup, on a essayé d'autres modes de communication qui interfèrent un peu moins avec le contenu du rêve lui-même. Et en particulier, puisqu'on s'intéressait aux émotions sur le visage, le fait de faire trois petits froncements ou trois petits sourires. Alors, le visage ne bouge pas ou quasiment pas, puisque les personnes sont paralysées, mais avec des capteurs de surface, on enregistre l'activité musculaire et on voit trois petites secousses. Et donc on peut dire, bah, trois petits sourires c'est oui, trois petits froncements de sourcils c'est non. On en décide avant et on voit ensuite ce qui se passe.
Il y a des profils qui sont plus à même de rentrer dans ce type de protocole, des âges des habitudes de sommeil, enfin, je sais pas, des gens qui...
Jean-Baptiste Marancy.
Alors, en tout cas, dans le service, les gens que nous avons recrutés pour réaliser son protocole sont un peu des surdoués du rêve lucide, qui sont en fait des patients dont on s'occupe dans le service, hein, pour lequel nous sommes un centre de référence, qui sont des patients qui sont atteints de narcolepsie. C'est une maladie assez embêtante où on s'endort toute la journée, involontairement, on fait des petites siestes courtes, puis après on en forme et les choses reviennent. Et ce sont des patients qui ont un onirisme assez débordant, et qui sont d'excellents rêveurs lucides. C'est-à-dire que non seulement ils vont faire beaucoup plus que des sujets sains, non malades, mais en plus, ils vont pouvoir réaliser avec un très haut taux de probabilité les codes dans le service de sommeil, et puis pouvoir non seulement les faire, mais les enchaîner, ce qui va nous être une source d'information absolument incroyable.
J'invite d'ailleurs nos auditeurs à podcaster notre émission justement sur la narcolepsie, les mille et une nuits de la narcolepsie. On vient de vous poster le lien sur notre fil Twitter. Alors, qu'ont apporté les expériences sur les rêveurs lucides? On sait que le sommeil est un facteur capital pour notre santé. Qu'en est-il des rêves? Ont-ils un impact sur notre cerveau? Restez à l'écoute. De Fears en direct sur France Culture, car nous parlons de rêves en grand, nous parlons de rêves lucides, en compagnie de nos deux invités du jour, Isabelle Arnuf, neurologue et chef du service des pathologies du sommeil de l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris, Jean-Baptiste Marancy, médecin psychiatre et somnologue du service des pathologies du sommeil de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Cette émission est en partenariat avec Science et Avenir, notre partenaire adoré et co-animé avec Olivier Lascar, rédacteur en chef du pôle numérique de Science et Avenir. On vient de voir que les rêves lucides, un peu plus de la moitié des gens en ont déjà fait au moins une fois dans leur vie, qu'il existe des méthodes pour s'entraîner à en faire durant son sommeil. Les rêveurs lucides sont mis à contribution pour la recherche scientifique. On continue d'en parler pour le reportage du jour avec vous, Bruno Sansini. Bonjour.
Bonjour, Natacha.
Pour vous plonger dans ces rêves lucides, vous êtes allé sur le site de Saint-Germain de l'Université Paris-Cité.
En effet, l'une des difficultés pour les sciences des rêves, c'est d'avoir des informations sur le moment et le contenu des rêves au cours du sommeil. Pour arriver à obtenir ces informations sur les rêves en train de se faire, Bachak Türker, chercheuse postdoctorale en neurosciences cognitives, met à contribution les rêveurs lucides pour essayer de mettre en place une communication avec les participants endormis. Ces recherches ont donné lieu à une publication dans Nature Neurosciences en octobre 2023 et ont mis en évidence que les rêveurs lucides sont capables à la fois de répondre aux stimuli pendant leur sommeil, mais aussi de se souvenir d'y avoir réagi au cours de leur rêve. ce qui ouvre des portes pour l'étude des rêves et d'éventuelles applications thérapeutiques.
Moi, je suis chercheuse postdoctorale. Du coup, je viens de finir ma thèse à l'Institut du cerveau. Et en général, je suis entre ici et la Pitié-Salpêtrière, où je vais faire les passations, les expériences, parce qu'on va avoir les locaux pour faire ce genre d'études.
Et justement, à l'hôpital, c'est quel genre d'expérience que vous mettez en place? Est-ce qu'il y a des patients qui viennent dormir, que vous étudiez toute la nuit?
Du coup, on peut faire en général deux choses. Soit on va inviter des participants à faire des siestes. Du coup, pendant la journée, ils vont venir. On va mettre des électrodes sur le crâne. Ça nous permet d'observer l'activité électrique du cerveau. Et on va mettre d'autres capteurs sur le visage pour voir comment les gens dorment. Et du coup, ils peuvent venir au laboratoire. On va mettre ces capteurs et on va les laisser faire une petite sieste de, ça peut être 20 minutes jusqu'à 1h30, pour observer un peu leur activité cérébrale. Donc ça, c'est le premier type d'étude. Sinon, on peut avoir des passations pendant la nuit. Du coup, ils vont venir avant de s'endormir dans la soirée. On va remettre ces capteurs et on va les laisser dormir toute la nuit. Et ça nous permet d'avoir beaucoup plus de données expérimentales pour analyser. Mais c'est un peu plus difficile à mettre en place parce que, bien évidemment, on ne laisse pas les participants seuls. Il faut qu'on soit là, les surveiller toute la nuit. Donc, il y a un peu plus de charge de travail. Mais dans l'idéal, on préfère faire pendant la nuit parce que ça nous permet d'avoir des jolies données expérimentales qu'on peut exploiter après. Mais selon le stade d'intérêt pour notre étude, on peut choisir de faire les siestes dans un moment spécifique de la journée. Par exemple, si on veut vraiment observer du sommeil paradoxal, ben on va un peu torturer les participants et on va leur demander de venir à 6h du mat. Et ce qui nous permet de faire une sieste pendant la matinée vraiment très très tôt. Comme ça, ils finissent un peu leur nuit à l'hôpital. Et ça nous permet d'observer beaucoup plus le sommeil paradoxal que dans l'après-midi.
Justement, c'est cette phase-là qui vous intéresse particulièrement, le sommeil paradoxal. Pour quelle raison?
Parce que c'est le stade de sommeil où on est vraiment très endormi, très coupé de l'environnement. On a cette narrative de rêve, on vit des choses très très fort. Et en plus, notre cerveau quand même est assez actif. C'est pas comme l'éveil, mais... On voit que comparé aux autres stades de sommeil, comme le sommeil léger ou profond, bah, le cerveau est assez actif, crée ses scénarios, ses rêves, donc c'est très intéressant. Les rêves peuvent arriver dans tous les stades de sommeil, mais ça arrive beaucoup plus souvent en sommeil paradoxal, et en général, les rêves sont beaucoup plus riches quand c'est pendant ce stade-là. Et en plus, il y a des phénomènes très intéressants, comme les rêves lucides, qui peuvent arriver beaucoup plus souvent dans ces stades-là. Et moi, vu que je m'intéresse aux rêves lucides, bah, je vais essayer de voir beaucoup plus pendant ces stades de sommeil.
Et justement, vous parlez de rêves lucides. Pour quelles raisons ces rêveurs sont importants? C'est parce qu'on essaie de comprendre justement à quel moment, quelle activité cérébrale induit ce genre de comportement.
Moi, je trouve que les rêveurs lucides, c'est un modèle très cool pour faire de la recherche parce que c'est comme si des petits agents infiltrés dans ce monde des rêves peuvent nous envoyer des signaux en disant « Ah là, il y a un rêve qui se passe » et pour la première fois, on peut dire « Ah, il y a un rêve à ce moment-là ». Mais en fait, ce qu'on voulait faire, c'était aller un peu plus loin et savoir s'ils peuvent aussi recevoir de l'information. Pas seulement on sait quand le rêve arrive, mais on peut aussi savoir des choses sur le contenu de rêve, ce qui serait très riche comme données expérimentales. Du coup, dans notre recherche, on a essayé de faire ça et stimuler des participants. Stimuler, ça veut dire envoyer des sons, par exemple, pendant qu'ils soient endormis. Et ils essayaient de nous répondre s'ils entendaient. Donc, établir une communication bidirectionnelle où l'expérimentateur envoie des signaux, le participant reçoit, compris, répond, et après, on peut avoir une dialogue.
Et justement, donc, ce protocole pour rentrer en contact, pour échanger avec le patient pendant qu'il dort, et ça ressemble à quoi ces sons?
Du coup, ce qu'on a fait, c'est de présenter des mots et des faux mots. Ces mots-là arrivaient à peu près chaque 10 secondes et on les présentait à l'éveil d'abord, donc un peu. On demandait aux participants, on disait on veut vous présenter des mots, on veut que vous contractiez certains muscles faciaux pour répondre et pour nous dire si vous avez entendu un vrai mot ou un faux mot. Et on leur demandait de soit sourire, soit froncer les sourcils pour nous répondre, pour nous dire « Ah, c'est un vrai mot, c'est un faux mot ». Donc, ils s'endormaient, c'était des petites siestes, et pendant lesquelles on présentait ces mots et pseudo-mots chaque 10 secondes à peu près, et on regardait leur activité musculaire pour savoir s'ils répondaient ou pas. Et effectivement, on a vu des réponses, des contractions très jolies dans la plupart des stades de sommeil, donc c'était vraiment...
Donc, ils arrivaient à réagir comme s'ils étaient éveillés pendant leur sommeil.
Exactement. On a observé le plus plupart des réponses, c'était pendant le sommeil paradoxal, pendant la lucidité. Donc, ils ont répondu 50% du temps. Donc, chaque fois qu'on présentait un stimulus, bah, 50% du temps, ils nous répondaient. Et ce qui est crucial, c'était des réponses correctes. Donc, plupart du temps, ils n'avaient pas contracté des muscles aléatoirement, mais comme s'ils faisaient vraiment la tâche et ils contractaient correctement. Les participants qui disent qu'ils ont fait des rêves lucides, ils répondent vraiment très très bien, 50% du temps, et ils rappellent en général, ils disent « Ah oui, j'étais lucide, et en plus j'ai entendu des mots et j'ai répondu. » Donc on sait que la lucidité vraiment nous permet d'avoir ce genre de communication.
C'est quoi la suite justement de ce genre de protocole? Comment vous pensez le faire évoluer?
On peut optimiser nos paramètres pour être sûr que chaque fois que j'envoie Steam, mon participant va répondre. Je vais vraiment pouvoir détecter ces moments propices pour avoir un dialogue. Ce qui nous permettrait, déjà pour la science des rêves, c'est très cool parce qu'on peut vraiment avoir des dialogues quand on veut et on peut poser des questions sur le monde des rêves, ce qui nous fera avancer énormément dans ce domaine de recherche. Et on peut aussi imaginer des applications cliniques, par exemple, si j'ai un patient qui fait beaucoup de cauchemars et si je peux savoir les moments où son cerveau sera capable de m'entendre, je peux répéter à cette personne, t'inquiète pas, c'est un rêve. Et ça serait un vrai soulagement pour pendant le cauchemar, d'entendre un son qui dit « c'est un rêve, ne t'inquiète pas, ça va aller » et ça peut être utilisé pour des traitements ou pour aider ces gens-là qui ont peur de dormir maintenant.
Merci Bruno Sansini pour ce reportage. Comme on l'entendait, on peut parler avec des rêveurs endormis. On a fait tout un tas de découvertes étonnantes grâce aux rêveurs lucides, Jean-Baptiste Marancy.
Oui, alors, une des découvertes les plus... Enfin, j'imagine vous me posez la question sur ce sujet-là. Ce qu'on a pu explorer avec le rêve lucide, c'est la partie émotionnelle des rêves. Alors, évidemment, on n'était pas les premiers à s'y intéresser. Ça ne surprendra pas nos auditeurs. Très souvent, au cours des rêves, il y a de l'émotion. Alors, on peut se demander pourquoi, puisqu'après tout, on est dans notre lit, bien à l'abri, qu'il ne va rien nous arriver de terrible. Donc, pourquoi se produire des émotions au cours du sommeil, alors qu'on pourrait rester dans des rêves neutres, bien tranquilles? L'idée, c'est que ces émotions, elles ont une fonction, qu'elles ne sont pas du tout gratuites. Et à nouveau, c'est l'idée d'un cerveau qui travaille, un cerveau qui fait sa thérapie au cours de la nuit. Vous passez une journée, vous allez être confronté à des situations négatives, des émotions négatives. L'idée, c'est qu'au cours du sommeil, vous allez les rejouer au cours de vos rêves. Pas exactement ce qui s'est passé dans la journée, mais un peu modifié, bizarre, des éléments inattendus qui se mêlent, mais tout de même, elles sont réactivées. Vous allez à la fois les mettre en mémoire, mais aussi vous allez les digérer. Digérer, ça veut dire que grâce au rêve, le lendemain, lorsque vous êtes reconfronté à la même situation, vous allez pouvoir réagir de façon adaptée, normale. Voilà, vous aurez fait votre petite thérapie au cours de la nuit. Simplement, si on veut avancer sur cette fonction, et bon, pour le psychiatre que je suis, il me semble que c'est une fonction quand même absolument passionnante et absolument vitale qu'il faut investiguer, il faudrait qu'on sache quand même ce qui se passe vraiment exactement, puisqu'on l'a vu, les récits de rêves nous donnent accès aux rêves, mais peut-être une version biaisée, avec de l'amnésie, pas assez détaillée, etc. Donc on s'est dit, pour la première fois, on va aller explorer l'émotion des rêves à l'aide du rêve lucide. Donc on va avoir des émotions en direct, non biaisées, et on va pouvoir regarder ce qui se passe. Alors un premier élément, c'est quelque chose qui était un peu débattu, c'est-à-dire quelle est l'émotion qui prédomine? Est-ce que vraiment c'est beaucoup plus de négatif? Est-ce qu'il y a plus de positif? Ça dépend un peu des méthodologies utilisées, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais disons qu'on n'était pas tout à fait sûr. Et là, avec le rêve lucide, on a pu voir que c'était quand même assez 50-50 entre émotions positives et négatives, et beaucoup moins neutre. Alors, comment on a accédé exactement? L'idée était d'utiliser les fameux codes. Le code était assez simple. Rêve lucide, si c'est un rêve négatif, vous nous faites 3 froncements. Si c'est un rêve positif, vous nous faites 3 sourires. Si c'est un rêve neutre, vous nous faites un froncement, un sourire. Donc, c'est ce qui nous a permis d'accéder au contenu. Mais comme on avait des rêves lucides particulièrement doués, non seulement ils pouvaient nous dire, allez, rêve négatif, mais ils pouvaient continuer à coder. C'est-à-dire, on pouvait voir si le rêve allait devenir positif ou pas, par exemple, s'il allait devenir neutre, etc. Et ça nous a permis de nous apercevoir que les rêves, en fait, ils sont très souvent et positifs et négatifs, et que ces deux types d'émotions s'enchaînent très rapidement dans un rêve. On a même pu estimer, en mesurant la distance entre les deux codes, vraiment comme on mesurait avec un double décimètre. Et la valence émotionnelle d'un rêve dure à peu près une minute au cours du sommeil paradoxal et change du coup sans arrêt, puisque du sommeil paradoxal, on en fait allez, 2 heures par nuit à peu près. Donc, l'idée, c'est que l'émotion va changer tout le temps, beaucoup plus rapidement qu'à l'éveil. Et donc, on s'est demandé, mais alors, si on est là pour réguler nos émotions, pourquoi on passe tout le temps du positif au négatif? Et on a fait l'hypothèse que peut-être trop de négatifs à traiter, c'est trop pour notre cerveau, en fait. Si jamais ça se prolonge, est-ce qu'il va pas faire une petite indigestion, puisqu'on est censé digérer, produire un cauchemar? Et peut-être que c'est tout à fait important, du coup, de faire des pauses neutres et positives pour après se remettre à traiter le négatif et que ça fait partie du mécanisme.
Isabelle Arnoux, cette théorie, cette hypothèse de la fonction de régulateur d'émotion des rêves, ça c'est encore à l'état, justement, d'hypothèse.
La fonction du sommeil comme régulateur émotionnel, elle est prouvée. C'est maintenant la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça passe à travers les rêves? Oui, ça a été très bien montré, par exemple, en exposant des personnes à des images horribles, comme des amputations, etc. Leur cœur s'accélère, leurs émotions sont très amples. L'amygdale, qui est le siège des émotions dans le cerveau, s'active. Et si on les laisse passer 10 heures dessus, qu'on réexpose à des images, il y a la même réaction extrêmement désagréable. Mais si dans ces 10 heures, on intercale 7 heures de sommeil, le lendemain matin, il n'y a plus du tout, exposé aux mêmes images, la réaction d'accélération. Et l'amygdale n'est plus activée et elle est même remise à zéro. Et donc c'est Matthew Walker qui a montré ça très bien. Et de façon d'autant plus qu'elle a été connectée avec le lobe préfrontal. Donc l'hypothèse, c'est que le lobe préfrontal, c'est la raison, l'amygdale, c'est les émotions. Et pendant le sommeil, il y a une espèce de freinage petit à petit qui se ferait du lobe préfrontal sur l'amygdale.
Olivier Lascar.
Il faut toujours dormir sur une mauvaise nouvelle, quoi, finalement, quand on reçoit un mail négatif ou... un peu désagréable, il ne faut pas répondre du tac au tac, il faut dormir dessus.
Oui, vous ferez une réponse plus rationnelle et moins émotionnelle le lendemain matin. Et pour d'autres choses, pour prendre une décision, pour ne pas le faire sur le plan purement émotionnel.
Alors peut-être une question liée aux conversations qu'on a en amont de ces émissions, évidemment. Mais puisque les rêves auraient une vertu thérapeutique, hein, comme ça a été expliqué, dans quelle mesure il peut être préjudiciable de manipuler ses propres rêves quand on est rêveur lucide et de transformer ce que naturellement on va générer comme onirisme? Si on va le manipuler, on va casser sa machine à digestion, en quelque sorte, qui a été dite tout à l'heure.
Oui, on peut tout à fait penser ça spontanément. Alors d'abord, on va rassurer les personnes, nos plus grands rêveurs lucides, quand ils en font 2 par semaine, on est content. Sur une centaine de rêves minimum, c'est une toute petite proportion. Donc on va pas beaucoup altérer le phénomène. La deuxième chose qu'on sait, c'est que les grands rêveurs lucides sont en bonne santé mentale, et c'est même plutôt un signe d'ouverture. Quand on fait des appels pour demander des rêveurs lucides, on a plutôt des personnes assez intellectuelles qui nous contactent, parce que c'est un état intellectuel extrêmement intéressant. Une fois que vous êtes en rêve lucide, non seulement vous pouvez diriger une partie du rêve, mais vous avez une netteté très jolie, vous voyez le grain de la peau, vous faites plaisir. Et le troisième aspect, c'est que nos patients narcoleptiques, par exemple, qui font énormément de cauchemars, à partir du moment où ils deviennent lucides, ils arrivent à enlever les cauchemars de toutes les manières possibles. Ils s'inventent des capes d'invisibilité, ils vont dans une panic room, ils s'envolent beaucoup pour échapper à leurs poursuivants, et ils se débarrassent de cauchemars récurrents par cette technique-là. Donc elle peut être utilisée, c'est pas la principale pour les cauchemars, parce que c'est difficile de devenir rêveur lucide, mais ça fait partie des thérapies qu'on utilise pour contrer les cauchemars, c'est-à-dire l'excès d'aspects négatifs dans les rêves.
Alors du point de vue du cerveau, parce qu'on a dit depuis le début de cette émission que maîtriser un corps réel alors qu'il est dans un corps onirique, être conscient, c'est être assez proche de l'éveil. Le cerveau lucide, c'est un état hybride qui mélange veille et sommeil, ou est-ce juste, on est juste dans un état de sommeil paradoxal un peu plus actif, Jean-Baptiste Marancy?
Alors, comme on l'a dit, c'est principalement sommeil paradoxal. Et oui, on est bel et bien en sommeil paradoxal. On va pouvoir trouver des caractéristiques assez fine, en fait, qui le rapproche peut-être un tout petit peu plus de l'état de veille que le sommeil paradoxal classique, où on a un rêve non lucide. Simplement, parler d'état hybride, c'est peut-être aller un petit peu loin. C'est pas quelque chose qu'on va voir à l'œil nu, par exemple. Je peux pas regarder un enregistrement de sommeil et dire, ah oui, l'activité s'accélère. Il s'agit de toute évidence d'un rêve lucide et non, il va me falloir les codes. Donc, oui, mais marqueur très très fin tout de même.
Isabelle Arnulf, parce qu'à un moment a été formulée justement cette hypothèse du cerveau hybride lors du rêve.
Oui, c'est moins hybride au sens mélange veille-sommeil que regain de conscience. Et la conscience est quelque chose de complexe qui suggère quand même que le cerveau travaille de façon beaucoup plus connectée. Et ce qui a pu être montré, c'est un peu plus de connexion. Alors c'est évidemment difficile de faire de l'imagerie cérébrale en sommeil paradoxal, ça fait beaucoup de bruit les IRM, les gens n'endorment pas, mais dans le travail que nous avons fait avec Bachak Türker, nous avons regardé les fois où les personnes répondaient aux mots et aux non-mots, et les fois où elles ne répondaient pas, et analysé sur un grand encéphalogramme la façon dont le cerveau travaillait avant de répondre ou pas au signal. Et ce qui a été très clair, c'est que les marqueurs de conscience qu'utilise Lionel Nakache par exemple, qui a travaillé avec nous dans les comas, apparaissent avant qu'une personne réponde ou pas à un signal. Quand elle ne répond pas, il n'y a pas ces marqueurs de conscience qui sont une complexité, une façon de communiquer des neurones entre eux qui est plus importante. Ce qui a permis de montrer, parce qu'on est parti des rêveurs lucides et puis on a rapidement fait les mêmes manips avec des sujets normaux, de montrer que même les sujets normaux pouvaient coder sans se sentir lucides, ils pouvaient répondre à ces signaux et ils répondaient d'autant plus à ces signaux qu'ils avaient ces petites briques de conscience qui s'allumaient dans le cerveau pour réagir ou pas au monde extérieur. Ce qui nous a permis de généraliser et de montrer que quand on dort, c'est comme si on était dans un sous-marin et de temps en temps, régulièrement, toutes les 10 secondes à peu près, on sort un périscope qui fait attention au monde extérieur. Si une information passe, on la traite. Et puis, si elle passe à un moment où on n'a pas sorti le périscope, on ne la traite pas. Donc, finalement, le sommeil est beaucoup plus discontinu, paradoxal comme le sommeil lent, que ce qu'on pensait auparavant, voilà, en termes de conscience.
Tout un réseau du contrôle et de la conscience de soi qui s'active lors d'un rêve lucide. Alors, on connaît l'expression « la nuit porte conseil », mais le rêve permet-il vraiment de booster notre créativité ? Quels sont les bienfaits du rêve lucide ?
Restez à l'écoute.
Culture. La science CQFD, Natacha Trioux.
En direct sur France Culture, avec Jean-Baptiste Marancy, Isabelle Arnulf, nous parlons des rêveurs lucides et des recherches en cours sur ce sujet. Une émission en partenariat avec Science à Avenir et co-animée avec Olivier Lascar. On vient de voir que les rêves lucides permettent de lutter contre les cauchemars. On découvre également, Jean-Baptiste Marancy, que les entraînements oniriques fonctionnent. Par exemple, il y a une étude, une expérience de 2017 qui montre que les participants qui parvenaient à s'entraîner aux fléchettes pendant un rêve lucide voyaient leur score augmenter de 20% le lendemain.
Oui, tout à fait. Il semblerait que ce qu'on fait pendant notre sommeil, pendant nos rêves, puisse porter ses fruits à l'état d'éveil. Donc avec cette manip, bon, qui reste quand même un petit peu anecdotique. On entend aussi des anecdotes de sportifs qui disent pouvoir s'entraîner dans leurs rêves, etc. On n'a quand même pas tant d'études que ça. Et probablement aussi que c'est la fonction du rêve en général, en fait, hein, qui va devenir beaucoup plus proéminente dans le rêve lucide qu'on va maîtriser.
Olivier Lascar.
Non, mais ça m'évoque la question des apprentissages en général, parce qu'il y a aussi une image d'Épinal, hein, de personnes qui auraient envie de s'endormir avec des écouteurs, avec My Taylor is Rich, pour être bilingue au réveil. Est-ce que ça, ce sont des choses qui peuvent marcher un petit peu ?
Isabelle Arnulf.
Non, ça marche pas. Ça marche pas, ça a été essayé dans les années 60. Par contre, ce qu'on a appris le soir a beaucoup de chances d'être intégré dans le contenu mental pendant le sommeil, plus en sommeil lent, en début de nuit, où là les rêves peuvent être assez répétitifs. Quand on passe dans la phase de sommeil paradoxal, on a l'impression qu'on passe à quelque chose de plus ouvert, de connexion qui vont dépasser ce qu'on vient de vivre la veille et aller plus loin dans probablement des associations à plus longue distance, d'où l'idée que ça favorise la créativité, c'est-à-dire l'association de choses auxquelles on n'aurait pas pensé dans l'éveil. Alors, ça va d'anecdotes, évidemment. Je me rappelle d'une patiente qui m'avait dessiné un ordinateur dont le moniteur faisait le café en même temps, ce qui est mon rêve, effectivement. Mais elle avait simplement associé deux choses qu'on fait souvent ensemble, boire un café et faire de l'ordinateur. Et elle avait créé simplement en rêve, comme ça, cette idée qui nous viendrait pas forcément à l'éveil. Alors, si on s'intéresse à beaucoup de grands chercheurs, il y a beaucoup d'anecdotes. Einstein dit qu'il a trouvé la relativité dans un rêve. Dalí l'utilisait pour, disait qu'il utilisait l'endormissement pour faire dessiner des nouvelles choses. Alors, pour tester la fonction du sommeil paradoxal lui-même et du rêve sur la créativité de façon formelle, c'est extrêmement difficile. On sait juste qu'on résout mieux un anagramme ou une anecdote en se réveillant du sommeil paradoxal que du sommeil lent, mais c'est un argument un petit peu faible. Par contre, dans notre équipe, Delphine Oudiette s'est intéressée à l'endormissement, justement en reprenant la façon de faire de Dalí qui se mettait dans un siège avec une petite cuillère et quand la cuillère tombait sur le sol, notait ce qui lui passait dans la tête. Edison faisait pareil. Et lui, il avait une boule de métal et il se mettait dans son fauteuil et quand la boule de métal tombait, c'est-à-dire quand il venait de s'endormir, il notait son idée et il en a eu beaucoup des idées, y compris l'ampoule électrique. Et donc on l'a testé avec du coup une bouteille dans la main qui tombait sur le sol et en faisant faire des sortes d'équations avant cette session de 30 minutes dans la journée. Et les personnes, les équations ont des réponses qui sont un peu longues à faire, c'est des séries de chiffres, mais il y a une règle cachée qui permet d'aller 100 fois plus vite. Et du coup, la personne résout l'équation très très vite. Et donc ceux qui ont veillé pendant 30 minutes après la série d'équations, quand on recommence, il y en a à peu près un tiers qui a trouvé la solution rapide. Ceux qui ont vraiment dormi, mais complètement, qui se sont endormis jusqu'au stade 2, 14%, et ceux qui ont laissé tomber la bouteille, c'est-à-dire qui ont dormi une minute d'endormissement de stade N1, 88% ont trouvé la solution. Donc ça, c'est facile à faire chez soi, et ça montre juste que, pas seulement le sommeil paradoxal, mais tout ce mélange qu'on a entre la pensée d'éveil, la concentration d'éveil et l'imagination dans laquelle on passe dès l'endormissement, c'est propice à des associations qu'on ne ferait pas en éveil.
Et puis on a aussi Marguerite Yourcenar qui dit « Le dormeur assemble des images comme le poète assemble des mots » et qui, cette romancière qui se réveillait à l'aube pour aussi capter ses rêves. Mais comme vous venez de nous dire, Isabelle Arnuf, le sommeil paradoxal n'est pas le seul à doper notre inventivité. On arrive à la fin de cette discussion, mais quand même, Jean-Baptiste Marancy, les bienfaits du rêveur lucide, vous les qualifierez comment ?
Alors, on a plusieurs abords possibles. Il y a des gens qui, par exemple, s'intéressent à leurs rêves, à leur monde intérieur. Donc, c'est vraiment une expérience plaisante, quelque chose à explorer. On va avoir aussi le côté plus utilitaire dans le cadre d'une fonction, c'est-à-dire la capacité qu'ont les rêveurs lucides à changer le scénario de leur rêve, ce qui peut se révéler très utile chez les gens qui souffrent de cauchemars. Cauchemar, c'est un mauvais rêve très négatif qui peut nous réveiller, auquel on va penser en journée, qui va avoir des conséquences négatives. Eh bien, si vous apercevez que vous êtes en train de rêver, vous êtes poursuivi par je ne sais quelle créature effrayante, la peur peut être suspendue. Tiens, je suis en train de rêver, puis vous pouvez transformer la créature qui vous poursuit en autre chose, quelque chose de risible. Et enfin, le troisième abord qu'on peut avoir, c'est celui qu'on a développé au cours de cette émission, c'est celui d'explorateurs du monde onirique qui vont travailler en partenariat avec des chercheurs pour répondre à des questions sur les rêves et leurs différentes fonctions.
Isabelle Arnouf, pour conclure.
Pour conclure, les rêves ont probablement plein de fonctions. On a parlé là beaucoup de la régulation des émotions, ça a l'air d'être une fonction forte. Peut-être consolider la mémoire, c'est une autre histoire. Simuler la menace, on en a peu parlé, mais ça semble être une fonction importante. Développer l'empathie, se mettre à la place des autres, le semble aussi. Donc, il y a probablement des milliers de fonctions au rêve, comme il y en a à la pensée dans l'éveil. Et donc, ça vaut le coup de s'y intéresser.
Bien, merci de nous avoir intéressés tout au long de cette heure. Dans quelques secondes, on retrouve la chronique d'Alexandra Delbo. Mais je rappelle que le nouveau numéro de Science et Avenir s'apprête à sortir ce jeudi, Olivier Lascar.
Voilà, avec en couverture « Prendre le contrôle de ses rêves », qui est notre grand dossier du mois.
avec voilà toute notre masterclass tout au long de cette heure pour apprendre à devenir un rêveur lucide. Tout de suite, un tout autre sujet. Aujourd'hui, Alexandra Delbo nous parle du sourire des dauphins. C'est la chronique avec science.
Comment les dauphins communiquent-ils quand ils jouent ? Le jeu est un comportement très commun des animaux sociaux. Bonobos, orang-outans, gorilles et chimpanzés, tous les grands singes jouent. Les chats aussi, les chiens, les poulains, certains oiseaux comme le corbeau et le perroquet. Et les animaux marins ne sont pas en reste. Par exemple, les dauphins et les otaries jouent en groupe. Et ce ne sont certainement pas les seules espèces marines à jouer. Seulement parce qu'elles sont parfois en captivité, cela facilite ces observations rendues très difficiles par le monde aquatique. Ces comportements sont retrouvent dans d'autres contextes. Dans le jeu, ils vont être incomplets, modifiés ou exagérés. C'est à ça qu'on les reconnaît. Mais l'enjeu central quand on joue à deux, c'est de bien se faire comprendre. Si je vous pousse un peu, il faut que vous interprétiez bien que je ne cherche pas à me battre, mais à jouer. Et ça passe par certaines expressions faciales. Alban Lemasson est éthologue, chercheur au laboratoire Ethos, professeur à l'université de Rennes 1 et co-auteur de cette étude parue dans iScience.
Jouer à se battre, c'est un grand classique chez l'animal et chez les mammifères. Et pour éviter que le jeu se transforme en bagarre, une communication bien réglée pendant le jeu est extrêmement importante. Si on commence par l'humain pendant le jeu va exprimer des rires et des sourires. Et on fait le parallèle chez l'animal avec une expression très particulière qui consiste à ouvrir la bouche pendant le jeu, que l'on va retrouver chez les espèces très sociales de mammifères terrestres comme les suricates, les ours et la grande majorité des primates sociaux. Selon Nicolas Steenbergen, qui est l'un des pères de l'éthologie moderne, qui a reçu le prix Nobel en 1972, il y a un processus de ritualisation qui fait que des comportements d'ordinaire fonctionnel vont être reproduits de manière un peu extraordinaire pendant le jeu. Et cette ouverture de bouche, qui est très fréquente pendant le jeu, dériverait via un processus de ritualisation de l'action de mordre que l'on retrouve dans les réelles bagarres.
Les mammifères ouvrent donc la bouche pour signifier le jeu et non la bagarre. C'est un comportement à très courte distance. Il faut se voir pour observer ce simili-sourire. Et parce que les dauphins jouent beaucoup, à tout âge, ont une socialité complexe et une communication vocale élaborée avec le sonar, les scientifiques ont voulu savoir si cette expression faciale avec la bouche ouverte faisait partie de leur panoplie de communication. Alors attention à l'anthropomorphisme évidemment, c'est-à-dire le fait d'attribuer des caractères ou des réactions humaines aux animaux. Si l'on regarde un dauphin, on a en fait un petit peu tout le temps l'impression de les voir sourire, parce que notre sourire est comme ça, dents dehors, bouche entrouverte, mais c'est un sourire anatomique et il faut se garder cela dans un coin de la tête. Ce que cette nouvelle étude a voulu voir, c'est si pendant le jeu, cette bouche ouverte revenait souvent. Résultat, c'est bien le cas et surtout, ce comportement est contagieux.
On a travaillé sur quatre groupes sociaux dans des delphinariums en Italie et en France, avec un total de 22 individus. Et on a observé que le dauphin, comme les carnivores et les primates terrestres, vont ouvrir la bouche pendant qu'ils jouent. On voit cette ouverture de bouche au moment des jeux sociaux avec leurs congénères, mais aussi lors des jeux avec les soigneurs humains. Par contre, on ne le retrouve pas lors des jeux solitaires. On voit aussi que 9 fois sur 10, ils vont ouvrir la bouche quand ils sont dans le champ visuel de leur partenaire, ce qui veut dire qu'ils prennent en compte l'état attentionnel du partenaire. On a travaillé sur d'autres comportements qui morphologiquement sont proches, comme le contact du rostre ou la tentative de morsure, et cette prise en compte de l'état attentionnel du partenaire, on ne la retrouve pas dans les autres comportements. Comme chez les mammifères terrestres, on voit cette imitation rapide. Le fait qu'un dauphin ouvre la bouche pendant le jeu avec un partenaire va déclencher dans la seconde, en moins d'une seconde, l'ouverture de la bouche de l'autre partenaire, une fois sur 3.
Les dauphins attendent que leurs congénères soient en face d'eux pour ouvrir leur bouche, et ceci uniquement pendant le jeu. Alors, retrouver ce comportement n'est pas en soi si étonnant, parce que cet animal a toutes les caractéristiques nécessaires. Mais ce que cela signifie, c'est que le dauphin présente donc aussi une communication visuelle, et c'est la première fois qu'elle est observée seule. La suite, ce sera de confirmer ces résultats avec davantage de dauphins, et idéalement à l'état sauvage. Ce n'est pas si simple, car l'animal ne vient respirer que quelques secondes secondes à la surface toutes les 20 minutes. Il faudra donc avoir recours à un dispositif expérimental assez conséquent, avec des caméras et de l'eau bien transparente, pour quantifier ce comportement en pleine nature.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la science CQFD. Loïc Dutoit, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Noémie Eliazor, Bruno Sansini, Alexandre Morales, Ali Ruyer-Thompson. À la réalisation, Hélène Trigueros. À la technique aujourd'hui, Noé Chaban. N'hésitez pas à nous podcaster partout, à toute heure, sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.